Radio Foot International.
Olivier Prompt.
Bonsoir, rebonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est reparti pour la Ligue des Champions, la reine des compétitions de clubs, vous le savez. Vous le savez, ne faites pas la fine bouche, la seule qui vous fasse autant rêver dès la phase de poule. Oui, quand on est un vrai passionné. C'est votre cas, Patrick Juillard, non?
Absolument. Bonsoir Olivier, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir et bienvenue. Première journée donc dans cette compétition dont on va vivre les trois dernières éditions, hein, sous cette forme. Vous le savez, on l'a dit, profitons-en. Dans trois ans, pour la saison 2024-2025, la Ligue des Champions changera de braquet, c'est bien ça. Elle passera à 36 équipes et à une phase de groupe qui garantira 10 matchs de championnat à tous. Ça va être un peu long. Hein. Première journée, déjà une grosse affiche ce soir qui arrive presque trop tôt, mais c'est ainsi. Barça-Bayern, David Lortolari ne l'a pas quitté des yeux, celle-là. Rebonsoir, David.
Rebonsoir, Olivier.
Au menu également Lille, Wolfsburg, Chelsea, Zenit Saint-Pétersbourg ou encore Malmö, Juventus et quelques autres. On n'oubliera pas non plus de vous parler de la défaite qui fait désordre de Manchester United face aux Young Boys de Berne. C'était à Berne. Allez, David Finzel, pédale, Laurent Salerno, enclenche.
Davis, Goretzka, c'est bien parti ce mouvement-là. Sané, Müller. Oh, il va frapper, Thomas Müller, voilà qui est fait. C'est contré, c'est au fond. L'ouverture du score du Bayern. Kimmich, super ballon pour Alfonso Davis. La frappe, ça arrive dans les pieds de Moussiala qui peut mettre la sienne. Le poteau et le pied. Le pied sur le rebond de Lewandowski, le buteur polonais qui entre dans la danse, ça fait 2-0. Ah, on le sentait venir, c'était une question de temps. Mais attention, à pas jouer à la baballe là parce que.
Jouer.
Ouais, il y a des joueurs qui sont venus prendre ce ballon, nouvelle frappe sur le poteau, ça revient dans les pieds de Lewandowski pour un doublé, c'est fait. Robert Lewandowski, ça fait 3-0.
Vous l'avez entendu, Barça-Bayern. Au Barça donc, 3-0 pour le Bayern. Müller, 34e, 6e but en 7 matchs contre le Barça. Il aime jouer les Catalans. Lewandowski, 56e, 85e. Logique, messieurs, hein, face à ce Barça bien démuni et limité. Allez, Patrick.
Oui, logique. On avait parfois l'impression, en deuxième mi-temps, au plus fort de la domination bavaroise, de voir une équipe de A contre une équipe de U17 ou de U15. Enfin, il y avait deux classes d'écart et à la fois dans l'intensité, dans la qualité technique, dans la précision, tout ce qui manquait. Les deux buts de Lewandowski, le but aurait pu être marqué avant sur une frappe et c'est ensuite que Lewandowski marque. Donc, le Bayern avait une panoplie assez vaste. On les regardait avec David Lortolari. Parfois, on disait qu'ils tricotaient un petit peu trop dans la zone de finition et finalement ils ont su mettre le coup de collier qu'il fallait avec grâce à Lewandowski comme un renard. On n'a pas vu dans le jeu le meilleur Lewandowski, mais dans la finition, dans son pur rôle de buteur, c'était du 5 étoiles encore une fois. Le milieu rayonnant, Goretzka, Kimmich qui a un peu éteint les Barcelonais, donc Pas grand chose à dire. Des joueurs.
Pas difficile à éteindre.
Au-dessus du. Oui, voilà, mais encore faut-il ne pas laisser le doute s'installer parce que sur les 20-30 premières minutes, bon, le Barça était encore dans le match. Même à 1-0, ils sortent pas tout de suite, mais c'est en deuxième période que c'est la Bérésina pour eux. Quoi.
Un Bayern facile, hein, David. On a même l'impression, on s'excuse pour les supporters du Barça, mais c'est ainsi, c'est ce qu'on a vu, que ce Bayern en a gardé sous la semelle.
Oui, et je regardais rapidement les premières réactions, les premiers titres aussi chez les confrères en Allemagne. Ça oscille entre dominateur, qui est une vision très objective, je crois, des choses ce soir, et puis surclassement, surclassé. Alors évidemment, quand on repense au Barça de Messi, quand on repense à des moments où le Barça avait énormément de possession de balles, avait des occasions, avait du mouvement, avait du jeu. Là, c'était forcément un peu une classe en dessous ce soir. Ce qu'on a ressenti, me semble-t-il, au fil de la deuxième période, Patrick parlait de moments de domination du Bayern. Ce qu'on a ressenti, c'est que au fil du temps, quelque chose d'inexorable quand même s'installait, Olivier, et que le rapport de force, si ce n'était pas celui du 8-2 d'il y a quelques mois, ça ressemblait quand même à un vrai décalage et à une vraie force de l'un pour une faiblesse de l'autre quand même.
Oui, on a l'impression que c'est tout sauf surprenant. On s'y attendait, on en a parlé dans la première version, vous étiez là, David, en fin d'après-midi. On sait que ce Barça-là est très très loin de ce qu'il a été et il l'a montré encore ce soir. La saison peut être compliquée quand même, hein.
Elle peut être longue, elle peut être
même
pénible.
Si en championnat ça démarre pas mal, hein.
Voilà, c'est-à-dire
qu'ils gagnent le match en retard, ils ont 10 points comme Valence, comme voilà, potentiellement le Real.
En championnat ça démarre pas mal et sur les matchs niveau championnat, Depay s'est bien intégré et apporte ce qu'on attendait de lui, ce qui fait dire à certains que le départ de Griezmann n'est pas trop pénalisant. Mais il y a un problème dans cette équipe, c'est-à-dire on a des joueurs, des cadres qui sont des très anciens, des Alba, des Busquets. Et de l'autre, on a une classe issue de la Masia où il y a des jeunes très prometteurs, mais qui ne sont pas encore prêts. Bon, on a vu Baldé, on a vu Pedri, tous ces joueurs-là ne sont pas prêts.
Enfin, on en est quand même à être inquiet parce que Braithwaite est blessé.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément en plus de bancs. C'est une équipe qui est coupée en deux entre les anciens et les nouveaux, peut-être la classe biberon qui sera peut-être une exceptionnelle dans 2 ou 3 ans, mais qui n'est pas prête. Donc ouais, ça peut être compliqué et Koeman va devoir réfléchir et trouver des bonnes formules. Et pour l'instant, ce qu'on a vu ce soir, c'est pas la bonne formule.
Je lisais parmi les messages nombreux de nos auditeurs cet après-midi, l'un d'entre eux disait ce soir, c'est le dernier match de Koeman. On n'en est pas là quand même, hein.
Ouais. C'est pas le genre de club à virer un coach après une journée de Ligue des Champions. Donc non, je pense pas.
À l'inverse, tout va bien pour on dit quoi, Julian Nagelsmann.
Oui, Julian. Julian, oui, c'est vrai, c'est ça
qui est son Bayern, donc hein, il est fraîchement arrivé et tous les signaux sont ouverts.
C'est ça, Olivier, qui est peut-être assez remarquable quand même, c'est-à-dire que ce qu'on a pressenti en championnat, une équipe qui trouve des solutions, qui marque beaucoup de buts, ça s'est vu ce soir, il y a eu quand même beaucoup d'occasions, beaucoup de buts aussi, 3, c'est beaucoup contre le Barça à l'extérieur. Et puis, ce qui est surprenant aussi, mais dans le bon sens, c'est que cette défense nouvelle, avec Zule qu'on connaissait déjà, mais qui était hors de forme pendant des mois, qui revient bien, plus Upamecano qui arrive de Leipzig, ces deux-là, ça tient. Alors évidemment, c'était pas Lukaku en face, c'était pas De Bruyne, c'était peut-être pas les terreurs du continent, mais quand même, on s'aperçoit que c'est un bon signal aussi. Bonne défense, bonne attaque. Nagelsmann a rapidement réussi à faire un cocktail performant avec son Bayern. Et on retrouve aussi de sa part des choses qu'on avait entrevues avec les équipes qu'il dirigeait précédemment, c'est-à-dire du mouvement, de l'originalité, une recherche de variété dans les actions. Voilà, quelque part, il y a déjà pour lui une partie du chemin de fait, parce que quand on arrive au Bayern, qu'on est un jeune entraîneur, les précédents, vous vous en souvenez peut-être pas, mais les précédents jeunes trentenaires entraîneurs du Bayern, ça avait été une catastrophe absolue. Sören Lerby, par exemple, ils étaient partis au bout de quelques matchs. Nagelsmann avait la pression et ce soir, il commence bien sa campagne au moins.
Et le Bayern commence donc parfaitement cette Ligue des Champions 2021-2022, 3-0, on le rappelle, et on rappelle aussi que ça a été logique, presque une formalité.
Hein. Il n'y a rien à dire.
On peut conclure là-dessus. Dans ce groupe, l'autre rencontre de ce groupe F, le Dynamo de Kiev a cru hein, s'imposer 1-0 dans le temps additionnel face au Benfica Lisbonne, et puis finalement ce but a été refusé après la VAR, et donc on se sépare sur un 0-0. Bayern en tête, 3 points, et donc forcément Dynamo de Kiev et Benfica Lisbonne, 1 point, et le Barça 0. Enfin,
ouais, le Barça n'est pas perdu plus, hein. Dans cette poule.
Le Barça devrait pouvoir s'en sortir, ouais. Et après on ne sait pas ce qui peut se passer, à la fois dans cette phase de poule où on n'est pas non plus totalement inquiet, et ensuite en phase d'élimination directe, il ne s'agit surtout pas d'enterrer le Barça. On va passer à l'affiche du club français du jour, parce qu'on a vu un gros match à Lille. On fait un coucou à Eric Mamrut, que vous avez entendu dans la soirée spéciale sur RFI, présentée par Antoine Grenier, avec l'assistance bien sûr de Cédric De Oliveira pour les réseaux sociaux. Eric aurait aimé être avec nous, et il est pris par la conférence de presse. Les conférences de presse d'après-match, Lille-Wolfsburg 0-0, et le mot qui nous vient à tous à l'esprit, c'est frustration, parce que c'est vrai que à l'arrivée, on a vu une telle domination lilloise. Alors votre avis à l'un et à l'autre, et après on écoute l'un des acteurs du match.
Ouais, ben c'est typiquement le match malheureusement d'équipe française en Ligue des Champions, c'est-à-dire on a fait un bon match, on était au-dessus. Ça s'est joué sur des petits détails. On va entendre ce genre de choses. Oui, c'est ce qui nous sépare du très haut niveau. Oui, tout ça, mais c'est sur le terrain qu'il fallait peut-être avoir ce petit coup de folie, ce petit surcroît de précision qui a manqué. Il a pas manqué grand chose, hein. Ça se joue à deux lignes, en fait. Le but, parce que la balle est sortie au début de l'action.
Oui, de pas grand chose, mais elle est sortie. Donc, on en débat encore chez nos confrères, notamment la télévision. On n'en débat pas, nous, elle est sortie, elle est sortie.
Alors, en d'autres temps, sans le VAR, peut-être que ça serait passé à l'as et que le but aurait été accordé au final.
C'est vrai que ça se jouait pas grand chose.
Mais voilà, malheureusement. Et pareillement, sur la fin, Lille a plusieurs occasions. Alors, il y a des coups de tête.
Le but, c'était Jonathan David, on va quand même le citer parce qu'on y a cru longtemps.
Des coups de tête qui frôlent les poteaux. Il y a
Fonte
une faute
dans les arrêts de jeu. Fonte fait une tête incroyable, de 7-8 mètres, incroyable.
Bien sûr. Mais il y a une faute aussi qu'on a cru. Un pénalty a été accordé ensuite après contrôle des images.
À 20 secondes de la fin du temps additionnel, rendez-vous
voilà,
compte.
Voilà, une faute sur Onana qui était rentré. Il s'est avéré que la faute était en dehors de la surface, donc c'était un coup franc. Donc c'est tout. Malheureusement, Lille n'a pas su profiter d'être en supériorité numérique pendant la dernière demi-heure. Ça les a bien aidés. Ils ont vraiment appuyé très fort. Ils ont totalement dominé les 30 dernières minutes. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. C'était une attaque-défense. Mais malheureusement, la défense l'a emporté sur l'attaque pour tout ce qu'on a dit. Et Lille pourrait s'en mordre les doigts parce que l'autre rencontre du groupe, vous allez sûrement en parler rapidement, a débouché aussi sur un nul. Donc si Lille avait gagné ce soir, Lille s'installait en tête. Prenez déjà, bien sûr, c'est toujours bien d'être devant et de pouvoir voir un peu venir. Là, non, ils sont déjà dans le dur, donc c'est compliqué.
On en dira un mot tout à l'heure, hein, de ce 1-1 entre Séville et Salzbourg. Avant de vous donner la parole, puisqu'on a parlé du manque de réalisme des Lillois, eh bien, José Fonte, lui aussi, en a parlé de ce manque de réalisme, et il est concerné, puisqu'il y a eu cette tête dans un but assez ouvert et qui est passé à quelques centimètres du poteau. On l'écoute.
La vérité, c'est que les occasions, elles sont là. Il faut marquer, il faut faire meilleur quand on est là, sur la pression. Ça, c'est l'effort, c'est d'être ensemble, c'est d'être solide, compact, donne pas d'occasion. Et c'est ça qu'on a fait, on a travaillé bien, on a fait un bon match, mais pour être parfait, il faut gagner à ce match-là, il faut gagner à chez nous, avec notre supporter. Un joueur en plus, deuxième mi-temps, il faut gagner.
Deuxième mi-temps, faut gagner, José Fonte. Il a raison, le leader de Bundesliga n'a pas été fringant. Alors, il faut aussi rappeler, et vous alliez le faire, allez, faites-le.
Non. Ouais,
Lille a joué à 11 contre 10 pendant les 30 dernières minutes, hein, 35 dernières minutes.
Oui.
Expulsion de Brooks.
À ce micro, il y a quelques minutes, Naïm Moniol employait un terme très juste, qui est le terme de rageant. Et José Fonte a raison, ce match-là, il fallait le gagner. Oui, parce que Wolfsburg, c'est solide, c'est robuste, c'est en tête de la Bundesliga, ça ne prend pas de but, ça gagne 1-0, 2-0 efficacement, froidement, sur des vertus collectives, une équipe soudée, une équipe, mais ce soir, il y a plein d'éléments. Il y a les 30-35 minutes où on est en supériorité. Il y a des occasions. Alors, ce studio est très, très grand, mais 7m32, c'est encore plus grand que ce studio. Et la dernière tête, elle passe à côté d'un
7m32, c'est la longueur d'un but, non? À peu près.
C'est ça. J'ai relevé deux chiffres là. Juste, on va pas s'abreuver de chiffres, mais 16 tirs à 2 pour Lille. 16 tirs à 2. 4 tirs cadrés à 0. Voilà, ouais. deux petits chiffres qui disent beaucoup de choses, qui disent aussi, vous avez raison Olivier, le mauvais match de Wolfsburg, une forme d'impuissance, une forme, j'ai presque eu l'impression, une forme de soumission, ce roseau qui pliait, qui essayait de ne pas rompre. L'entraîneur Van Bommel, certes, était un dur comme joueur, mais on a l'impression quand même que on veut croire qu'il serait plus ambitieux que simplement défendre à Lille ou se contenter d'un 0-0. Wolfsburg m'a déçu ce soir. Et Lille n'a pas su en profiter. Je pense que ça va être rageant longtemps pour Lille.
Un petit mot quand même sur la performance du gardien de but belge de Wolfsburg, Castells, qui s'il n'avait pas été aussi bon et s'il n'avait pas été là, peut-être qu'on ne parlerait même pas de ça. Lille aurait gagné parce qu'il a été déterminant dans ses prises de balles, dans ses interventions, enfin toujours juste. On a l'impression qu'il a réduit la surface de son but. Donc c'est un bel hommage à lui rendre quand même.
Mais enfin,
même si cette équipe est pas très sexy, hein, ça c'est sûr.
Non, c'est solide pour la Bundesliga. Enfin, l'aventure ne devrait pas durer quand même en tête. Hein. On peut imaginer peut-être un tube de l'été. Mais
oui, mais ils sont difficiles à battre. Olivier, la preuve ce soir. Un petit mot sur la performance de Lille malgré tout. Alors évidemment, il y avait mieux à faire, mais il y a quand même en face de sacrés joueurs théoriquement. Donc peut-être qu'aussi la lecture par rapport à ce qu'on disait cet après-midi dans Radio Foot, Lille a peut-être monté un petit peu aussi son niveau par rapport à ce qu'il nous a montré depuis le début de saison.
Ah bah c'est clair.
Et a été capable.
C'était ma question suivante. Oui.
Oui, a été capable aussi de faire déjouer Wolfsburg, qui certes n'est pas une machine à jouer, on est bien d'accord, mais peut-être qu'il y a quand même quelques mérites de la part de Lille aussi. Hein.
On rappelle que depuis le début de saison, hein, c'est une victoire en 5 matchs, donc et pour un champion en titre, c'est franchement pas terrible. C'est un nouvel entraîneur, il faut lui laisser le temps, eh bien voilà, de maîtriser son effectif et de mettre en place sa tactique, Jocelyn Gourvennec. Donc est-ce que ce match-là, malgré tout, où on les a vus bien meilleurs que depuis quelques semaines, ça peut les remettre dans le sens de la marche.
Moi, sur la tactique, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rupture très nette sur le plan de la mise en place entre Galtier et Gourvennec. C'est toujours un 4-4-2 assez classique, bien huilé. Le problème, c'est que Lille, qui était extrêmement solide, qui était un vrai coffre-fort, s'est mis à encaisser énormément de buts. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais sur les 4 premières journées, c'est 10 ou 11, je crois, ce qui est beaucoup.
Oui, c'est plus de 2 par match. On en a parlé tout à l'heure.
C'est plus de 2 par match. Il y a des cartons, hein, notamment contre Nice à domicile. Donc, c'est inquiétant à ce niveau-là. 3 buts pris à Metz. Enfin, beaucoup trop de buts contre des équipes qui d'habitude ne marquent pas autant. Donc, c'est ce qui est le plus inquiétant. Et on l'a assez dit, mais je pense qu'il faut le souligner parce qu'on a souligné la performance de Castells dans les buts de Wolfsburg. Mais la perte de Mike Maignan, c'est quand même important et je suis pas certain que Grebic, pour l'instant, il a pas le rayonnement, il a pas la maîtrise de sa surface de but qu'avait Mike Maignan. J'espère qu'ils vont régler ce problème, mais je suis pas certain qu'ils aient fait la pioche du siècle pour remplacer un gardien aussi autoritaire et régulier que Mike Maignan. Voilà, c'est mon
inquiétude.
Qui est
numéro 2 en équipe de France, hein, me semble-t-il. Hein,
absolument. Et numéro 1 au Milan AC.
Et numéro 1 au Milan AC, bien sûr, on va le suivre cette saison. Donc, 0-0 entre Lille et Wolfsburg, vous l'avez suivi entre autres sur RFI ce match-là grâce à Eric Mamrut. Dans ce même groupe, 1-1, on l'a dit, entre Séville et Salzbourg. C'est vous dire si il va être serré ce groupe, s'il est ouvert, parce que avec ces deux résultats nuls, mais même comme ça, en regardant ces 4 équipes, on voit bien qu'il y a un coup à jouer. Il y avait sans doute un très gros coup à jouer en s'imposant ce soir. Sur Séville-Salzbourg, il y a une particularité, il y a eu 4 pénaltys. Il y en a eu 2 d'inscrits et 2 de ratés. Et les 2 ratés, ils sont du côté autrichien. Alors, en déplacement à Séville, rater 2 pénalties et repartir avec un nul, un partout.
Je pense qu'ils ont au moins autant de regrets que Lille ce soir. Ouais. Parce que c'était l'occasion rêvée à Séville de faire un peu turbuler la hiérarchie du groupe, de faire du chamboule-tout. Et finalement, on a 2 matchs nuls. C'est un groupe qu'on disait relativement équilibré entre 4 équipes qui sont plus, sans être désobligeantes, des équipes de Ligue Europa que de Ligue des Champions. Bah là, finalement,
attention, c'est Séville, hein, qui est vraiment une vraie équipe de Ligue
Europa. Non, mais attention, c'est une superbe équipe qui a un plan de jeu, enfin, c'est une très belle équipe, mais c'est plutôt, historiquement, une équipe qui réussit en Ligue Europa. Sans être désobligeant, bien sûr, hein. Mais, donc là, finalement, on a 2 matchs nuls. C'est une première journée pour rien dans ce groupe. C'est très dommage pour les Lille et pour Salzbourg qui auraient dû, chacune de son côté, l'emporter.
Ça va batailler jusqu'en décembre, métidé, ce groupe-là, avec des équipes qui vont avoir du mal à se départager. On va passer aux champions en titre. Chelsea, qui était opposé au Zénith Saint-Pétersbourg. Chelsea n'a pas beaucoup bougé à l'intersaison. Chelsea a quand même mis 115 millions d'euros sur Romelu Lukaku. Et ce soir, Thomas Tuchel peut s'en féliciter que ses dirigeants aient mis cette somme parce que Romelu Lukaku a inscrit son 4e but en 4 matchs. Victoire de Chelsea 1-0. Lukaku donc à la 69e minute. Le tenant, Patrick, est là et il semble fort.
Il semble fort. Chelsea a complètement changé de dimension en un an, en une saison et demie. Hein. On pensait déjà qu'ils avaient fait un très bon recrutement la saison passée, mais avec plutôt des jeunes joueurs de Bundesliga. Et là, on ajoute en plus un avant-centre qui est aujourd'hui dans les 5 meilleurs avant-centres du monde, sans problème, Lukaku.
Oui, sans problème.
Qui est un vrai colosse hein, en attaque. Pas juste physiquement, mais par son... la manière dont il aimante les ballons un petit peu, on l'a vu sur ce centre de Azpilicueta, il a un sacré gainage parce qu'il est très très en arrière sur ses appuis, il arrive à rabattre le ballon, il est au sommet de son art et ça doit rappeler un certain Didier Drogba à Chelsea et je pense que c'est pas un mauvais souvenir pour leurs supporters. Voilà, oui, je pense que on a rajouté un peu le dernier étage de la fusée parce que la saison dernière, on se plaignait avec Timo Werner, d'avoir un joueur qui est très travailleur, qui apporte beaucoup à son équipe, mais qui malheureusement est aussi insuffisant dans la finition. Là, avec Lukaku, on a un joueur qui tire les autres vers le haut tout en étant un tueur dans la surface. Donc, ouais, je pense que Chelsea, en tout cas, a de sérieux arguments pour prétendre conserver peut-être son trophée, ce que pas grand monde a fait, mais pourquoi pas.
Le Real lors du triplé 2016-17-18, voilà. Mais sinon, plus personne depuis souvenir, le Milan de 89-90, oui. Me semble-t-il.
En 89 et en 90, oui.
Et donc, jamais simple quand même, quand on est tenant comme ça, de relancer la machine. Mais on l'a dit, le groupe a peu changé, juste Lukaku, le Chelsea de Thomas Tuchel est solide, déjà, hein, on le sent.
Oui, c'est un symbole fort hein, pour moi, le but de Lukaku que Patrick décrivait, c'est-à-dire une équipe difficile à jouer, difficile à battre. On se souvient évidemment de cette finale de Ligue des Champions où même une équipe qui produit beaucoup de jeux n'a pas réussi à la dominer. Le symbole fort de Lukaku qui marque un but qui n'est pas tout fait quand même. Et alors par contre quand même, il y a un bémol à donner à cela, Olivier, c'est que le Zénith, c'est un peu l'ombre du grand Zénith du passé. C'est pas non plus l'adversaire.
C'est pourtant leader du championnat de Russie.
Non, mais bien sûr, bien sûr.
Bon, lequel il n'y a plus grand monde.
Oui, il fallait s'imposer ce soir. Ça a été fait d'une courte tête. Et quelle tête de la part de Lukaku. Pour moi, le symbole est fort. Et vous avez raison, Olivier. On retrouve un Chelsea qui est celui de la saison dernière, peut-être un peu plus fort encore. Parce que Werner est aussi une solution maintenant qu'il est sur le banc pour tourner autour, pour rentrer en cours de match, pour apporter une fraîcheur, pour user aussi l'adversaire. Bon courage aux adversaires précisément de Chelsea. Du moins en ces premiers mois de la saison.
Avec l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et un défenseur central dont le Paris Saint-Germain ne voulait plus, hein, je crois.
Un certain Thiago S.
et un certain Thomas Tuchel, qui on a dit le jour de Noël, tiens, ton cadeau, va voir ailleurs si on y est. C'est la revanche se poursuit.
Bah, bon, il a vu et
c'est mesquin de notre part, mais c'est réel.
Mais les deux qui sont autour de Thiago Silva sont très bons aussi. Azpilicueta, c'est quand même fort. Et puis Rudiger, maintenant, a fait ses preuves aussi avec la sélection en Allemagne. Donc, ils ont une belle défense centrale.
Chelsea, vraiment, c'est le client, c'est l'outsider numéro un. On a parlé cet après-midi, on a regardé un peu les pronostics de nos confrères de l'équipe qui mettent le PSG tout en haut et qui disaient Chelsea, Manchester United.
Non, Manchester United, je suis...
On va en reparler, ça démarre mal.
En tout cas, ça démarre mal. Et puis surtout, c'est encore une équipe en construction qui n'a pas de certitude, qui n'a pas de vécu dans la gagne, en quelque sorte. Chelsea, là, puisqu'ils sont tenants et que ça se passe bien en championnat. Après, le PSG, pour moi, c'est... Alors, c'est vrai, ils sont finalistes, demi-finalistes. Ils viennent de recruter Messi. Ils vont avoir un trio d'attaque inédit que le monde entier leur envie. Mais on disait pareil de l'équipe de France avant l'Euro. Donc, voilà. Donc, attention. Attention. Moi, je pense que je suis comme Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Donc, pour l'instant, j'ai rien vu.
Chelsea Zenit, donc 1-0, dans le même groupe, Malmö, le club suédois, finaliste de cette compétition 78-79. Malmö accueillait la Juve et la Juventus de Turin à la peine, c'est le moins que l'on puisse dire, en championnat. Et depuis le départ de Cristiano Ronaldo, en championnat, c'était un point en trois matchs, hein, déjà 8 longueurs du trio de tête.
On dirait les stades d'Arsenal.
Et on se disait... Ouais.
Ils ont gardé l'ancien gardien d'Arsenal.
Déjà depuis longtemps. On disait dans la première version de ce Radio Foot cet après-midi que ce pouvait être un match pour se remettre dans le bain, dans le sens de la marche. Et ça l'a été. Hein. Les Turinois se sont imposés 3-0 à Malmö. Donc une victoire qui peut faire du bien.
Ouais, ça a pas fait un pli. Ça fera du bien parce que c'est toujours bon de gagner dans un groupe où il y a deux favoris très nets, Chelsea et la Juve, deux équipes plus faibles. Bon, c'est bien de commencer comme ça, d'éviter un faux pas. Le malheureux Ismaël Diawara le Malien dans les buts de Malmö, bon, il a surtout vu les ballons lui passer au-dessus ou autour. Malheureusement,
j'ai pas noté les buteurs. Vous avez vos téléphones avec vous, j'imagine. Vous allez essayer de nous trouver ça. J'ai pas repéré les buteurs. Oui. Morata, oui, c'est ça.
Justement, j'allais dire Olivier que avec
Dybala Morata... sur penalty la deuxième, me dit Laurent Salerno, il est sur le coup. Il nous manque que le troisième. Morata, Dybala. Ah, Morata deux fois. Ah, le premier, c'est Sancho. Voilà, voilà, on les a, les infos. Sancho, Dybala, Morata, 3-0. Allez-y, excusez-moi,
non,
David.
Non, pas du tout, Olivier. Mais c'était précisément pour dire qu'il y a quand même dans cette équipe des joueurs qui ont le calibre Ligue des Champions encore aujourd'hui. Dybala, Morata, bien sûr. Rabiot, évidemment. De Ligt, Bonucci, Chiellini, s'il est encore apte. Même le gardien Chechny, les latéraux.
Ah oui, ça a de l'allure.
Tout ça peut cheminer tranquillement dans un groupe, effectivement, qui
Moïse
se dessine avec
aussi,
de gros et de petits. Oui, de gros et de petits, entre guillemets, peut et cheminer tranquillement jusqu'au printemps.
Donc ça va dans le bon sens quand même.
Indépendamment de ce qu'ils font en championnat.
C'est un début de championnat compliqué, mais enfin, on sait que le Calcio, ça s'est quand même bien, bien renforcé ces dernières années. C'est redevenu un championnat hautement compétitif. Mais ce qu'on avait vu pour le moment de la Juve n'était pas très convaincant.
Non, pas très convaincant. Après, ils ont joué Naples le week-end dernier où c'est jamais simple et où ils ont souvent des difficultés. Ça s'est encore vérifié. J'attendrai un peu avant de les enterrer totalement, parce qu'Allegri, en plus, sur le banc, a un savoir-faire. C'est pas quelqu'un qui se laisse abattre. Donc, à mon avis, ils sont pas morts. Hein. Ils sont pas morts. Mais c'est vrai que les deux, enfin, l'Inter s'est un peu fait dépouiller cet été, mais le Milan AC est plutôt sur une bonne dynamique. Ils font pas n'importe quoi. Donc, ça s'est un peu densifié pour la course au titre en Serie A, alors que il y a quelques années, la Juve, c'était comme le Bayern en Allemagne, c'est-à-dire c'était
presque pendant
le titre était pratiquement promis. Ouais. Oui, voilà.
Quoi, 7 ou 8 de rang, 7, hein.
8, je crois. Ouais. Donc voilà, forcément, ça fait bizarre quand les choses changent dans ces cas-là. Mais à mon avis, ils sont pas enterrés tout de suite.
Non, le championnat ne fait que commencer.
Voilà.
On parle de
voilà, ne tirons pas de conclusion matchs, hein. Au bout de 3 journées, voilà.
Même si quand même c'est compliqué, il faut dire quand même qu'en face ça n'était que Malmö.
Voilà.
Sans Ibrahimovic.
Des tout petits, l'un des tout petits.
Oui.
Oui, c'était. Il y est passé.
Bah oui, il y est passé. On en discutait aussi avant l'émission en disant bon, ce serait sympa qu'il revienne faire un tour par là comme Cristiano à Manchester United, toute proportion gardée. Non, mais bien sûr. Enfin, Malmö aujourd'hui face à la Juve, mais. Finalement, il y a un point commun aussi. Alors là, il y a un score assez large et la Juve a retrouvé sans doute quelques arguments pour se donner un peu de joie et d'air. Mais vous voyez qu'il y a peu de hasard dans les résultats, Olivier. Ça peut être des victoires très courtes, étriquées. Chelsea, c'est peut-être un peu trompeur parce qu'ils ont largement les moyens de faire mieux, même sur un match comme ça. Là, la Juve a un peu plus d'avance. Le résultat est le même. C'est-à-dire que les gros, implacablement, se sont imposés, sauf,
il me tend la perche.
Et j'ai pas
quelle
vu votre production.
On y arrive. Manchester United, j'avais envie de dire. Et Manchester, alors, dans tout ça? Ah, Manchester United, dont on dit le plus grand bien en championnat, dont on fait un favori pour cette Ligue des Champions avec le retour au bercail d'un certain CR7. Mais j'étais pas mal parti parce que CR7, justement, Cristiano Ronaldo a marqué dès la 13e minute. Après, ça s'est un petit peu compliqué puisque Wan-Bissaka a été logiquement expulsé. Et donc, les Young Boys de Berne, le quadruple champion de Suisse en titre, eh bien, ils sont revenus. Égalisation à la 66e de Nicolas Ngamale,
Moumine Ngamale, oui, ouais, qui avait déjà marqué le penalty à Abidjan contre la Côte d'Ivoire, qui n'avait pas suffi à faire gagner les Lions, mais qui est un joueur qui progresse beaucoup à la fois en sélection
avec
et en club.
Avec le nouveau sélectionneur,
qui s'est installé
Grenier.
Comme un titulaire indiscutable chez les Lions.
Voilà,
aussi.
Antoine Grenier soufflait tout à l'heure qu'il est impliqué dans 50% des buts depuis l'arrivée de Cancelo.
Tout à fait. C'est un peu son homme de base offensivement.
Et le but victorieux, oui, à la 92e minute.
Une vieille connaissance de Ligue 1 et d'un club qui vous est cher. Olivier.
Encore un joueur d'origine camerounaise, hein, oui. Qui est, même s'il est né aux États-Unis, Jordan Siebatcheu, oui, formé où?
Stade de Reims,
ouais,
monsieur.
C'est ça, c'est le Stade de Reims. Siebatcheu qui offre, donc la victoire aux Young Boys de Berne. Ils ont fait la fête comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions, pour les comprendre. Ils battent Manchester United 2-1. Bon, ben voilà, comme quoi, faut pas s'emballer non plus du côté d'United.
Les Red Devils sont en Berne ce soir.
Oh, voilà. Celle-là.
On Stade de Suisse.
Vous la gardez? Ouais. Non, mais une équipe qui est intéressante et qui a la particularité d'avoir de bonnes filières de recrutement en Afrique. L'attaquant de pointe ce soir, c'était Mecha Kelia, ancien joueur du tout-puissant Mazembe. D'ailleurs, il y avait eu un peu des bisbilles entre la présidence du club.
On salue Lubumbashi, on sait qu'il y a beaucoup de gens à l'écoute et qu'il chasse ça aussi, on va pas faire de jaloux.
De TP Mazembe souhaitait le vendre à Anderlecht et le joueur qui était en fin de contrat avait plutôt décidé d'aller aux Young Boys. Il a même été suspendu. Enfin, il y a eu un litige juridique. Finalement, il peut jouer. Il joue plutôt bien et bravo à lui.
C'est un sacré coup quand même.
Oui, et vous savez pourquoi ça me fait plaisir cette victoire, Olivier ? C'est parce que l'entraîneur américain des Young Boys, le nouvel entraîneur, David Wagner, on l'avait beaucoup suivi en Bundesliga, il a souffert comme entraîneur de Schalke, c'était un enfer pour lui, une espèce de chemin de croix, mais on savait que David Wagner avait des qualités d'entraîneur parce qu'il l'avait prouvé par le passé, parce qu'il avait un peu une fraîcheur dans ses méthodes, et je suis content moi. Alors c'est peut-être un coup comme ça, c'est peut-être un one shot comme on dit, c'est peut-être un coup dans ce groupe, peut-être que les Young Boys peut-être n'iront-ils pas plus loin, mais pour l'instant en tout cas, il y a cette belle victoire et vous voyez qu'on peut gagner en étant en supériorité numérique, on peut gagner les matchs.
Bien sûr.
Des regrets pour Lille.
Ceux qui repartent vraiment penauds, ce sont forcément les joueurs de Manchester United. Bien sûr. On a vu la mine abattue de Cristiano Ronaldo en fin de rencontre. Ça fait tâche là quand même.
Ah ben c'est sûr, ça fait tâche puisque après le match parfait qu'il a réussi pour son retour à domicile, c'était la belle histoire. Là, en plus, il ouvre le score, donc on se dit bon, c'est à Berne, ça va être simple. Tout le plan va se dérouler sans accroc, et ben non, le grain de sable dans la machine, Van Bissaka, tout s'enchaîne, tout se goupille mal, et voilà, c'est là aussi la beauté du foot, surtout dans ces matchs de début de saison où les hiérarchies sont pas encore établies, où surtout les grands clubs n'ont pas atteint leur pleine carburation, ils sont plutôt réglés pour être au top au printemps, lors des tours éliminatoires, donc ouais, c'est ça.
Finalement, après, on n'est pas inquiet pour eux.
Non, on n'est pas inquiet pour eux. Après, attention quand même, c'est assez dense puisque Villarreal et l'Atalanta Bergame, bon, c'est deux bonnes équipes.
Hein. Et elles l'ont montré ce soir parce que il y a eu des buts. Il y en a eu deux de chaque côté, deux partout entre Villarreal en Espagne, donc face à l'Atalanta Bergame qui nous enchante quand même globalement, ouais, saison après saison, et qui est là. C'est vrai qu'on voit Manchester United prendre la première place. On imaginait une bagarre, on imagine toujours entre Villarreal et l'Atalanta pour la deuxième, plutôt l'Atalanta devant. Mais ce soir, c'est Berne qui est en tête.
Les cartes sont totalement rebattues et ça peut redonner beaucoup d'intérêt à ce groupe et en faire un petit groupe de la mort, alors qu'on ne s'y attendait pas au départ. Il peut y avoir une grosse surprise. Et peut-être une mauvaise pour certains gros budgets.
Elle est lancée, cette Ligue des Champions, cette première journée. Alors, puisqu'il nous reste quelques minutes avant de réécouter une partie un petit peu croustillante de la première version de ce Radio Foot, on va évoquer, messieurs, puisqu'on vous tient, l'entrée en lice du Paris Saint-Germain, présentée par nos confrères du journal L'Équipe ce matin comme le grand favori, 5 étoiles hein, pour aller chercher cette Ligue des Champions. On l'a évoqué tout à l'heure, tout simplement parce que Messi est arrivé. Les Parisiens, eux, sont arrivés à Bruges aujourd'hui, le même jour qu'Hugo Moissonnier qui est allé les suivre en conférence de presse. C'est lui que vous retrouverez bien sûr demain au stade pour commenter cette rencontre, Hugo Moissonnier. Un mot, juste à voir, on va écouter Simon Mignolet, qui est l'ancien gardien de Liverpool, le gardien belge donc de Bruges, auquel une question a été posée. Qu'est-ce que ça vous fait justement d'être face à toutes ces stars? Parce que c'est une constellation de stars, le Paris Saint-Germain aujourd'hui. On écoute la réponse de Simon Mignolet.
Ça fait quelque chose toujours. Si tu es dans le couloir avant le match et tu es en train de penser au adversaire qui est à l'autre côté, là, tu as déjà perdu le match. Donc, oui, je suis fier d'être sur le terrain demain et de jouer contre les joueurs comme ça, pareil, mais il faut avoir juste le niveau de respect que c'est nécessaire pour gagner le match encore. Donc oui, c'est amusant de jouer contre PSG ce star-là, mais tu gagnerais avec être là. Nous sommes là pour faire notre boulot.
Ouais, il faut pas être spectateur quand même, mais on a pratiquement le même type de match que celui dont on vient de parler, les Young Boys de Berne qui recevaient Manchester United parmi les favoris. Là, on a Paris qui va à Bruges. Il s'agit pas de se prendre les pieds dans le tapis, ça ferait désordre.
Ah oui, ça ferait vraiment désordre. Alors, heureusement pour le PSG, si ça se produit, ils seront pas les seuls puisque Manchester United s'est planté, mais je pense que non, ils vont faire le nécessaire pour ne pas se prendre les pieds dans ce tapis-là.
Ils vont faire en sorte de ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Enfin, a priori, David, on a une opposition quand même largement, très largement à leur portée. On se souvient de visites à Anderlecht ou ailleurs, des
même
Parisiens,
à Bruges, hein, il y a deux ans,
oui, où ça s'était très très bien passé.
Moi, je veux bien vous trouver un ou deux arguments, Olivier, pour dire que c'est inconfortable, parce qu'effectivement, le PSG a derrière ce match-là deux adversaires coriaces, voire de son niveau. Pour ce qui est de Manchester City, de son niveau
Leipzig,
à peu près,
Coria, ça semble un peu un ton en dessous quand même cette saison.
Sans doute, mais c'est un troisième de groupe qui peut être pénible, qui peut être franchement pénible. Donc ça, c'est un argument pour dire, c'est demain qu'il faut carburer et pour se lancer, pour commencer à gagner.
Il faut engranger dès le début en fait.
Après, la crainte qu'on a, c'est que tous ces galactiques aient du mal à fonctionner ensemble. Mais même comme ça, sur un éclair, sur une ou deux actions, avec un peu de réalisme, vous gagnez même petitement et puis voilà, tout, il y aura pas de débat quoi.
Et puis on va voir Messi, non ? On va voir Messi en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain.
Oui.
C'est quand même là qu'on l'attend, même face au club Bruges.
Oui, certes.
C'est là qu'on l'attend et on l'a déjà un petit peu vu contre Reims, vous y étiez sans doute.
Quelques minutes.
Mais on l'a vu, voilà, on a vu une sorte de toute petite signature, mais là on attend maintenant le grand œuvre, la suite, le vrai apport de Messi, et on espère que, pour le PSG en tout cas, que ce sera pas juste du marketing comme à l'époque de Beckham, mais je pense que avec Messi, on est à l'abri de tout ça.
On va écouter, parce que David Finzel, il est là, il travaille, faut pas croire, hein. Et il a récupéré une réaction, je crois, de Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain. Enfin, sera-t-il capitaine demain? On verra cela. On écoute Marquinhos.
Une fois qu'on rentre sur le terrain, il y a pas de noms, il y a pas de papiers, il y a pas des stars. Si tu fais pas les choses qu'il faut sur le terrain, tu vas pas gagner un match juste avec ton nom. Il faut se sacrifier, il faut faire les choses sur le terrain, il faut jouer, il faut bien jouer pour gagner un match, parce que le foot, ça se gagne pas avant le sifflet de l'arbitre.
Oui, il faut rappeler quand même la base, hein. Le foot, ça ne se gagne pas avant le coup de sifflet final. Et on l'a bien vu à Berne ce soir, Manchester United.
On l'a vu à Lille.
Confondre un peu tout. À Lille, c'était un peu différent. Lille, c'était presque une bonne surprise. Ça a failli être une très bonne surprise. Et puis finalement, à l'arrivée, manque de réalisme. Allez, messieurs, voilà pour ce débrief de cette première soirée de Ligue 1. Écoutez à présent les échanges de fin d'émission tout à l'heure dans une première version de ce Radio Foot avec Philippe Doucet, Naïm Meuniel et déjà David Lortolari. Il a été question d'hymne. On se retrouve dans quelques minutes. Ça claque! On est déjà là, c'est pas l'entrée dans le studio, c'est dommage. C'est la polémique inutile ou stérile ou pas du moment au Paris Saint-Germain. Faut bien qu'il y en ait une de temps en temps ou tout le temps. Phil Collins chantait l'arrivée des équipes sur le terrain au parc depuis 1992. Marketing oblige, DJ Snake l'a remplacé, sans même le savoir, hein, il y a 8 jours. Je vous propose d'écouter. Ouais, je crois qu'on peut revenir parce que ça claque quand même nettement moins. Mais enfin bon, on n'est pas tout à fait de la même génération que ceux qui peuvent peut-être apprécier cette musique de DJ Snake.
Moi, je suis beaucoup plus jeune que vous et ça me plaît pas non plus. Hein.
Et alors lui, il est embêté. Hein, il le fait savoir depuis hier au sujet de cette polémique. J'ai fourni un son, dit-il, pour la vidéo de présentation de Messi. J'ai découvert, comme vous, les supporters, qu'on en a fait une musique d'intro pour l'entrée des joueurs, alors que ça ne s'y prête pas. Lui-même le dit. Il a bien raison. Ça prouve qu'il a quand même de l'oreille et aussi un peu. On est content d'être d'accord avec lui. Je ne voulais pas nuire au club en prenant la parole sur ce sujet, mais je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter. Et vous savez l'amour que j'ai pour nos couleurs. Allez, Paris. On le disait, donc c'est la politique. La politique, oui, c'est une politique aussi marketing. Oui. C'est la polémique inutile du moment.
Oui, en partie, parce que moi j'aimais bien Go West, par exemple, qui était le des Pet Shop Boys, qui était l'hymne d'avant au Parc des Princes.
Michel Fugain, Philippe, par le passé.
Ah, peut-être. Ah, le grand Michel. Ah, bah voilà, là on parle tout de suite.
On dirait que ça gêne de marcher dans la boue, non?
Ça, c'était le pêche.
Non, mais ça aurait été bien pour le Parc des Princes.
C'est bien, le descendait là-haut vers le midi.
Hein, c'est bien.
Michel Fugain qui a ouvert au Parc des Princes,
je crois bien.
Ah, merde, ça explique ça. Non, mais en
tout cas. Michel Fugain était, en tout cas, cette chanson était à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques à Tokyo, mon petit bonhomme. Sachez que Fugain passe au Japon.
Si je peux revenir au football.
Marie-Mathieu aussi, pardon.
pareil. Moi, donc Go West, j'aimais bien. Et j'ai pas fait une manif quand ça a été changé. Je veux dire, je pense que c'est pas dramatique et ça n'est pas essentiel. Ce qui m'agace un petit peu dans tout ça, c'est qu'on s'aperçoit que finalement tous les objets de polémique sont chaque fois des choses qui ont rien à voir avec le foot. Ça a l'air de passionner tout le monde. De savoir si les supporters du PSG sont passionnés sur le FPF, quand le fair play financier, sont passionnés sur les questions économiques, sur il faut vendre Mbappé, sur ceci. Ils se mêlent de plein de trucs. Et rien à voir avec le foot à chaque fois. Moi, je trouve que les supporters, c'est pas fait pour ça. Hein. C'est pas fait. Alors, pour les hymnes, je comprends très bien que le club qu'on soif de discuter avec les supporters pour savoir quel hymne il voudrait, etc. Mais franchement, c'est pas un sujet fondamental. Quand le Barça, par exemple, a un hymne à lui, le Real a un hymne à lui, fait pour lui et qu'il a adopté.
Le Bayern a un hymne à lui.
Bon, je peux comprendre.
Les grands clubs, quoi, historique.
Je peux comprendre que ce soit un symbole fort. Je ne savais pas que Phil Collins habitait dans le 17e arrondissement. J'étais pas au courant, mais merci de me le dire, de l'apprendre.
Juste avant que vous repreniez la parole, Naïm, je sais pas si SoFoot a plus de grâce à vos yeux que l'équipe, mais je vous lis cet extrait du chapeau de SoFoot. Derrière ce choix qui peut sembler anecdotique, on est bien d'accord, aux yeux et aux oreilles des profanes, c'est un nouveau signe que le culte du marketing l'emporte sur le respect de l'histoire et de la mémoire collective des supporters. Et c'est ça plus que cela dit dans l'attitude des Qatariens, dont on peut estimer, c'est SoFoot qui écrit ça.
Oui, enfin oui, bon.
Si ah bon, il n'est pas d'accord non plus avec SoFoot.
Non, mais si, mais oui, à la rigueur. Mais
quand
le marketing sort des maillots qui n'ont rien à voir avec les couleurs du club, avec marqué Neymar, Messi, machin, et qu'ils en vendent des millions et que ça rapporte je ne sais pas combien, ils sont un petit peu moins choqués par le marketing dans les clubs. Philippe a raison de parler de l'hymne des clubs. Ça, quelque part, c'est pas ce qu'il y a de plus grave dans la culture d'un club. Même si c'est important, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Le problème, c'est que à Paris, ça intervient après beaucoup de choses. Ça intervient après la modélisation du logo, on l'a rendu un petit peu plus design.
Puis après,
on a changé le nom du camp des loges. C'est puis bon, après, on va changer carrément l'endroit où on s'entraîne. Et puis après, on va changer les couleurs. Alors, le maillot numéro 2 et numéro 3, même si c'est que les numéros 2 et les numéros 3, on en a vu passer quelques-uns sur les dernières années, c'est à gerber. Donc, en fait, ça, plus ça. L'hymne aujourd'hui, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Phil Collins, globalement, on s'en fout au PSG. Ça a moins d'importance au PSG, je trouve, que Jump à Marseille.
Je suis pas sûr que ce soit vrai dans tous les clubs.
Non, mais voilà, ça a moins d'importance à Paris que Jump à Marseille, si tu veux. Mais le problème, c'est que ça intervient après tout un tas de petites réformes qui, finalement, effacent un peu la culture parisienne
dans
du
le micro.
Club. La culture parisienne, finalement. Et au final, on se dit, si on touche au logo, si on touche au camp des loges, si on touche au lieu où on s'entraîne, si on touche à l'hymne, si on touche au maillot, la prochaine fois, on va toucher à quoi? Au nom du club? Voilà. J'ai un peu peur. En fait, c'est l'escalade qui pose problème.
Est-ce qu'on n'est pas, une fois de plus, dans ce qu'on dit depuis l'arrivée des Qatariens, ce club de parvenus, de nouveaux riches, qui ne s'achètera jamais l'histoire qu'ont certains clubs au sein desquels ce genre de polémique n'arriverait jamais?
Non, mais en fait, c'est généralisé. C'est pas lié. Je pense pas que ce soit plus lié à Paris qu'à Nantes. Je veux dire, si à Nantes, ils changent la chanson, les supporters vont. En fait, c'est un phénomène généralisé qui veut dire que les supporters, même ceux qui, honnêtement, il y a trois ans, ne savaient pas que le club existait, hein. Hein, parce qu'il y a aussi parmi quelques supporters.
En présidentiel, peut-être aussi.
Oui, aussi. Mais il y a beaucoup de supporters qui s'estiment propriétaires du club. Parce que les propriétaires viennent de loin, les vrais propriétaires viennent de loin, les entraîneurs vont partir, les joueurs, ils font un passage, ils viennent pour l'argent, ils s'en iront après, etc. Tout ça, c'est des mercenaires. Et nous, on est les tenants du club. Donc nous, on veut être d'accord avec tel transfert, on veut être d'accord avec la musique, on veut être d'accord avec comment la façon de jouer, le système de jeu, etc. Je pense qu'il y a un moment où il y a des limites. Les limites, ça s'appelle la compétence. Et je trouve que les supporters, dont un certain nombre se parent de toute cette histoire du club qu'ils n'ont pas connue en général, parce qu'ils ont certains d'entre eux ont 25 ans et ont 3 ans d'historique dans les tribunes et avant ne s'intéressaient même pas au foot. Par moment, ça me gêne un peu, si vous voulez, que tout cela se pare du club.
Oui, mais ça,
tous les
Twitter.
Autres, c'est des mercenaires, c'est moi.
Verrait-on
ça,
cela
c'est Twitter.
Verrait-on
ça
à Marseille? À Marseille, pour Van Halen, par exemple.
Non.
Verrait-on cela au Bayern? Est-ce que, voilà, je me souviens, quand on va à l'Allianz Arena, on a ce compte à rebours, ces battements de cœur, notamment, qui sont l'identité d'un début de match. Est-ce que tout d'un coup, on pourrait décider au Bayern de changer tout ça, sans demander l'avis?
Olivier, on navigue et on essaye de façonner les choses à la marge. C'est-à-dire qu'il y a des symboles forts. le logo, par exemple, de la Bavière, bah, vous allez pas, on n'imagine pas que ce logo-là, bleu et blanc, au cœur du rond qui symbolise le Bayern, ne change demain, ni dans 10 ans, ni jamais. L'hymne du club aussi, Stern des Südens, l'étoile du Sud.
C'est beau.
C'est beau, mais ça a été modernisé, avec plus ou moins de succès. Il a été un peu réorchestré, retravaillé. On s'amuse un peu de cette pseudo-modernité, mais on garde quand même cette espèce de symbole. Si vous prenez le RB Leipzig aujourd'hui, qui a une dizaine d'années d'existence, il y a rien à Leipzig, il y a rien à quoi on puisse se raccrocher, rien du tout. Et donc les supporters, bah, sont moqués dans toute l'Allemagne pour différentes raisons. Voilà.
Ils le créent.
Mais oui, c'est vrai.
Mais après, tous les clubs ont une histoire et les histoires ont un point de départ, David.
Non mais à Paris Saint-Germain, quand vous retirez le berceau de Saint-Germain sur le logo, c'est un peu gênant. Quoi.
Oui, bah oui, ça d'accord. Je suis entièrement d'accord sur le fait que toucher le logo ou changer, si demain tu fais du naming au Parc des Princes, oui, ça sera gênant. L'histoire de Phil Collins, c'est vrai que s'il rentre là-dessus depuis 91, c'était en 2021, ça fait 30 barreaux, t'as des mecs qui vont dans les tribunes, ils ont toujours connu que ça. Donc je peux comprendre que ça gêne, même si c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Mais le problème, c'est que je te le dis, ça intervient après tout un tas d'autres changements qui n'ont pas choqué. Ce qu'on dit, ouais, mais ils peuvent pas s'acheter l'histoire du club. Non, mais ils viennent de t'acheter Neymar et Messi, ferme ta gueule. Point final. Parce que c'est comme ça qu'ils achètent l'histoire du club, en fait.
C'est comme ça qu'ils parlent aussi dans les tribunes.
Mais c'est la vérité. Parce qu'en fait, les supporters qui critiquent les dirigeants, ou en l'occurrence le mec du marketing ou ceci, cela, sont les mêmes qui les adoubent quand ils font venir Messi.
Eh ben allez, moi je vous propose justement d'en écouter quelques-uns des hymnes pour voir si vous les connaissez ou les reconnaissez. On y va, monsieur Salerno.
L'Argentine.
Qui a dit l'Argentine ?
L'Argentine. C'est River Plate.
Oui, ça c'est pour faire plaisir au réfé. Parce que tout à l'heure on a moqué le Barça, donc on revient.
Parce qu'il n'est pas fan du Boca, lui.
Allez, on y va.
Marseille, Van Halen, jump.
Allez, on enchaîne. Celui-là, c'est plus compliqué.
Mazembe,
le plus grand club d'Afrique subsaharienne, on peut dire ça ? Oui, quand même. Le tout-puissant Mazembe à Lubumbashi. Allez, celui-là, c'est encore plus exotique.
Oh la vache.
Ouais, Laurent Salerno, quand on lui donne une mission, il va chercher loin. Le FC Goa. Allez, on va terminer avec celui-là.
En Inde ?
Ouais.
Les Corons, Bachelet.
Voilà.
La boum.
On avait encore Galatasaray, on avait encore l'Inter Miami, et puis on voulait terminer avec You Never Walk Alone, mais on va l'entendre toute la saison puisqu'ils iront loin. Allez, c'est terminé pour...
You Never Walk Alone, c'est au moins 10 clubs, alors c'est pas facile.
C'est vrai. Hold your head up
high and don't. Vous voulez que je vous dise, si la dame était là, je pense qu'on danserait.
Ah bon?
Ouais, sur You Never Walk.
C'est une belle version.
C'est dommage qu'elle ne soit pas à l'écoute. Elle doit déjà dormir, je suis sûr. Mais enfin, c'est dommage. On lui fera écouter le replay. Merci beaucoup, Patrick Juillard, d'avoir été là. Vous avez raté un sacré quiz tout à l'heure. Ah. On va essayer d'instaurer ça.
Je n'aurais pas Salerno, été parmi les meilleurs. Hein.
Oui, moi non plus. Je suis voilà. Si c'est pas les musiques des années 70-80, ça marche pas. Merci, monsieur.
Merci, Olivier.
Laure Tolari, pour cette double présence. Demain, vous avez rendez-vous dans Radio Foot avec Antoine Grenier. Oui, il était ce soir à l'animation de la soirée. Il revient demain pour animer Radio Foot, et même jeudi même, oui. Et puis, en ce qui concerne la soirée de Ligue des Champions, toujours sur RFI, vous le savez, de toute façon, chaque soirée de Ligue des Champions, il y a soirée spéciale. Vous le savez, depuis la saison dernière, ça marche bien, vous êtes présents sur les réseaux sociaux. C'est encore Cédric de Oliveira qui vous attendra pour vos messages et tout ce que vous pourrez raconter sur les matchs de demain. Il y a notamment, vous l'avez compris, Bruges, Paris Saint-Germain. Soirée animée par Thomas de Saint-Léger. Il y aura Hugo Moissonnier pour Bruges, Paris Saint-Germain. Il est à Bruges. Et il y aura encore Patrick Juillard. C'est phénoménal, ce casting.
Incroyable.
Encore demain. Vous aimez la cantine à RFI. Allez, merci à Laurent Salerno, à David Finzel. Bon dodo à tous, où que vous soyez sur le continent. On vous embrasse. Session Lab, un podcast